quelque part en Europe, en l'an de grâce 1501.
Préparez-vous à recevoir le corps de notre Seigneur.
À genoux.
Reçois le corps de Jésus-Christ, l'honneur. O Corpus Christi est. Reçois le corps de Jésus-Christ, Karst.
Un seul gobelet. Qui veut un gobelet? Des braves. Oubliez la chair du Christ. Vivez donc.
Pour l'amour de Dieu, Céline, ôte d'ici cette fille de païens. À genoux.
Dépêchez-vous, bande de bâtards. Ce vin ferait lever les cheveux du Christ sur sa tête.
Vous allez communier mécréant, sinon vous n'irez pas au paradis des soldats. C'est là, il y a du vin et des putains.
La messe est finie, cardinal.
Régale-toi, mon joli.
Laisse-moi, l'homère.
Préparez-vous à l'attaque, mes petits gars.
Si ces deux apostats meurent sans avoir communié, ils vont éternellement brûler en enfer.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre âme immortelle ou votre bourse bien pleine? Il est grand temps de donner l'assaut. Sachez que cette ville était ma ville. On m'en a chassé. Rendez-moi ma ville et je vous laisserai piller les maisons des riches pendant 24 heures. Vous avez la liberté de piller à votre aise.
Te coule le long de la cuisse.
Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors bonjour messieurs, dames et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique, en compagnie de François G. Couillard et Alexandre Bélanger aujourd'hui.
De retour.
Salut Alexandre.
Salut.
Le métalleux préféré des enfants et des moins enfants.
Oui, c'est le fun à savoir ça, les enfants et ça.
Et les poils et les moins poils.
Yeah, salut à tous.
Donc, justement, faisons un petit tour de table de ce qu'on va parler. On va commencer avec l'actualité ludique. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le jeu? Après ça, on va aller à ta chronique, Alexandre, la chronique de musique poil. Qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Ce n'est pas une chronique de musique poil. Et je dois spécifier quand même. Et de quoi je vais parler? Je vais parler de Koji Kondo. Et je vous laisse sur votre fin préciser de quoi ça parle exactement.
Toujours un japonais, Koji ben oui. Kondo. On va le découvrir ensemble. Et moi aussi, je vais le découvrir. Et on va avoir en entrevue Thomas Wilson, directeur créatif de Beenox Studio, qui va nous parler d'une sortie, là, son jeu Monster vs Alien. Et après ça, Vincent Langlois va nous faire une chronique en direct du sud de la forêt amazonienne, des contrées inexplorées, du sud du Canada, de la jungle canadienne.
C'est-à-dire?
De Lévis. C'est que je vais changer d'idée à cours de route, puis qu'on va faire un peu de théâtre. On va peut-être parler du Pérou, finalement. Sinon, ben, commençons avec une pièce musicale, tiens, de Musax, notre ami Yannick Capmarty de Haute-Garonne. Donc, bonjour aux gens de Haute-Garonne. Hein, t'es-tu capable d'imiter l'accent français, toi, Alexandre?
Un peu, quoi. Mais alors, pas marseillais quand même.
Non, alors plus cher, on va se faire un petit pastraga et on va se taper une petite bouillabaisse.
D'accord.
Pastraga, c'est le terme pour dire pastis, mais c'est vraiment du sud.
Oui.
Avec musax.info, et voilà, c'est parti.
Resident Evil 3 Nemesis met en scène à nouveau les membres des Stars, une unité d'élite. Ils devront nettoyer Raccoon City de ses zombies et combattre Nemesis, une terrible créature créée par la société de biochimie Umbrella.
Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Hey François, on est de retour!
Eh oui, on pensait à l'actualité ludique. C'est un fond merveilleux.
Oui, je m'y attendais pas.
Est-ce que tu connais le titre de cette pièce?
Ah non, je pourrais pas te le dire présentement, là, ça me sort de mémoire, mais tout le monde connaît ça, je pense.
C'est A Man and a Woman. Si vous entendez ça dans la salle d'achat, vous pourrez vous dire « Ah! Je l'ai entendu à puissance maximale. » C'était A Man and a Woman. Un homme et une femme.
Et ça, c'est une reprise québécoise durant les années 60 de cette...
Je sais qu'il y a... Tu connais... comment est-ce qu'elle s'appelle? Madame... Mrs. Miller.
OK. Non.
Tu connais pas Mrs. Miller?
Non.
Ah, elle, c'est un classique de la sous-culture de musique atroce des États-Unis. Et puis, elle a fait une reprise de cette pièce-là. Peut-être qu'un jour, on va oser la passer. Mais quoi que ça va faire mal aux oreilles aux gens. Donc, peut-être pas, finalement.
Non, on se lance dans l'actualité. Oui. Des choses sérieuses.
Donc, parlons vente de consoles.
Oh.
Tu vas être content de savoir, Alexandre, que la Wii et la Nintendo DS dominent.
Évidemment.
Parce qu'on sait qu'Alexandre est un grand fan de Nintendo DS.
Oui.
Et peut-être même de Wii.
C'est ma meilleure... Non, le Wii, j'ai jamais touché. Okay. Mais le DS, c'est ma meilleure console à vie. Et je suis un joueur depuis le Super Nintendo et Genesis depuis cette époque. Et le Nintendo DS offre ce qu'il y a de mieux en matière de jeux vidéo pour moi. Donc, je suis très satisfait et très... ça me surprend pas du tout.
Je dirais que Nintendo se porte très bien. D'ailleurs, si la Wii continue à se vendre à ce rythme-là, elle va devenir la console la plus vendue après avoir clenché Nintendo, là.
Après le NES, là.
Ouais, le
Nintendo Entertainment System.
Entertainment System, voilà.
La fameuse console 8-bit.
Et sinon, les ventes de jeux ont enregistré en février une hausse de 9%. Donc,
on a eu la crise.
La crise, ça affecte absolument pas l'industrie du jeu vidéo. Et donc voilà les selon les NPD Group la Wii c'est la première console à se vendre, après ça c'est une DS, après ça c'est la Xbox et c'est suivi des consoles PlayStation.
Ça c'est les chiffres en Amérique du Nord ou pour la planète?
En Amérique du Nord. Sinon, après ça, pour les ventes de jeux, allons voir ça. Il y a Street Fighter 4 qui domine.
Oula, un autre gros morceau.
Un morceau, un gros jeu de combat, un classique. Donc, pour les vieux de la vieille, là, Street Fighter, c'est toujours quelque chose de pas pire.
Je crois que c'est reminiscent du classique. Hein. Avec le 4, ils sont revenus avec un peu du 2. Puis, pour moi, c'est comme un événement. Chaque Street Fighter est un événement. Ben, pour tous les joueurs de Street Fighter, là, un nouvel épisode là, avec un chiffre qui lui appartient en propre. Parce qu'il y en a eu au moins une vingtaine. Mais on dit Street Fighter 4 là, c'est un événement.
Ouais.
Je l'ai pas vu encore, j'ai pas touché. Mais
c'est quand même quelque chose qui soit arrivé aussi rapidement là dans les tops des ventes de jeux. Il y a aussi Sonic, on peut féliciter avec Killzone 2 d'avoir atteint le palmarès des 10 jeux les plus vendus, parce que ça a été quand même sorti à la fin de février ce jeu-là, donc ça a monté vite. Ah. Et il faut encore lever le chapeau à Nintendo, parce que New Super Mario Bros, c'est un vieux jeu qui est sorti il y a 2 ans et demi. Il est encore dans le palmarès des 10 premiers jeux les plus vendus, donc chapeau à Nintendo. Et donc, selon encore une fois le NPD Group, le premier jeu qui se vend le plus, c'est la Wii Fit, avec accessoires, suivi de Street Fighter 4 sur la Xbox, Street Fighter 4 sur la PlayStation 3, Le jeu Wii Play, après ça c'est Killzone 2, Mario Kart, Call of Duty, World at War, etc., etc. Donc voilà.
Intéressant.
C'était tiré de Jouer.com qui a publié ces chiffres-là. Sinon, quoi d'autre dans l'actualité? Il y a la télé de Radio-Canada qui s'intéresse aux jeux de société. Donc l'émission 109 qui va faire une émission entièrement consacrée aux jeux de plateau en Europe et au Québec. Et ça va être... on va y retrouver des gens comme la journaliste Catherine Goldschmidt, bien connue au Québec, le professeur d'histoire Pierre Poisson-Marquis et Sophie Gravel de Philosophia. Ils vont faire partie d'une espèce de petite chronique, de petit documentaire sur le jeu de plateau.
Et ça va être... quelques heures, ça serait ça, cette émission-là? On sait pas encore. Hein?
Ça va être diffusé en mai. Par contre, l'heure exacte, je sais pas, mais c'est à Radio-Canada, donc surveillez ça.
Mais si c'est le lundi à 10h du matin, pas grand chose qu'on le regarde.
Oui. Peut-être sur Internet, pour l'avoir, on mettra le lien sur puissancemaximale.com.
Super.
Sinon, quoi d'autre? Un geek déjoue un attentat.
Wow.
Ça, c'était sur John Philip Newfield, qui est un étudiant de Montréal. Alors, il est en train de surfer sur le site de Jean Alain, newgrounds.com. Est-ce que tu connais Newgrounds?
Non.
Tu connais pas Newgrounds?
Non.
Ça, c'est un site que je conseille à tout le monde. On trouve des... c'est n'importe qui peut suggérer des jeux. Donc, les gens fabriquent des jeux en flash. Ils envoient directement sur newgrounds.com et ils sont tous intégralement publiés. Et à chaque jour, il y a des mises à jour, des jeux et aussi des animations. Donc, vraiment les deux. Et on trouve des petites merveilles, on trouve le pire et le meilleur. On trouve des trucs vraiment pas bons, puis des trucs vraiment très bons. Et donc, John Philip Newfield, il surfait sur Newgrounds.com, et il a vu à un moment donné le commentaire d'un utilisateur qui disait qu'il allait attaquer son école, et il donnait même l'heure et le jour qu'il allait le faire. Donc lui, Newfield, GP, il a fait ni une ni deux, il a appelé la police de l'école en question, qui gérait dans la section de l'école en question. Et moins d'une heure plus tard, un élève de 16 ans a été arrêté avec un contenant de liquide inflammable dans son sac à dos, un briquet et tout ça.
Donc, il y aurait vraiment eu attentat sans notre ami geek.
Peut-être, ouais. C'était risqué. Tu sais, le gars, il avait quand même un bidon d'huile dans le sac à dos, donc... Wow.
C'était sérieux, là.
Probablement qu'elle n'allait pas faire chauffer les guimauves avec ça, en tout cas.
Eh ben.
Donc, on salue GP Newfield, qui a peut-être prévenu justement un attentat. Donc, bravo. Puis, évidemment, on invite toutes les gens à faire la même chose. Il y a des jeunes gens qui écoutent en ce moment, qui se disent... qui ont vu des choses peut-être sur des forums de discussion, eh bien, surveillez ça et puis avertissez la police si vous voyez des menaces.
Vous pouvez sauver des vies.
Sinon, une petite dernière news. On annule la bataille des plaines. Bon, on savait que la bataille n'aurait pas lieu sur les plaines d'Abraham. Et finalement, elle était supposée avoir lieu ailleurs, donc à New York ou en Ontario. Et finalement, elle n'aura pas lieu pendant toute cette reconstitution-là. Pourquoi? Eh bien, c'est Horst Dressler, qui est administrateur du corps historique du Québec, qui a dit que ça ne rendrait pas honneur à la bataille des plaines d'Abraham si ça ne se faisait pas sur les plaines d'Abraham. Donc, ils se sont dit, finalement, on va annuler, on va laisser faire, et il n'y en aura pas. Et à la place, ils vont se rendre dans l'État de New York, et ils vont faire une genre de commémoration de la bataille de la guerre de 7 ans.
C'est de là que ça vient, d'ailleurs, ce genre d'idée-là, là, de reconstituer des batailles.
De quoi, de la guerre de 7 ans?
Ben, ça vient d'un peu des États-Unis, puis des gens, beaucoup de Nouvelle-Angleterre, qui ont plus intérêt que nous à reconstituer moins de controverses. Bon.
Ouais, il y a moins de controverses. Nous autres aussi, on a encore des petits problèmes.
De controverses.
Controverses. Donc, on va aller écouter une pièce musicale. Tiens, après ça, on va aller à ta chronique, Alexandre.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on va écouter? Écoutons un classique. Tu vas sûrement la reconnaître. C'est Powerhouse. Ça te dit rien comme ça, mais tu vas écouter l'extrait, ça va te rappeler quelque chose. Ça rappelle un peu Walt Disney, la belle époque.
J'ai les oreilles grandes ouvertes.
Donc, vous êtes sur Puissance Maximale, Powerhouse avec Raymond Scott. On revient tout de suite après.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Oh, François, on a encore une musique de fond, mais on va changer éventuellement.
Ça sent bien. Donc, Alexandre Bélanger, avec sa chronique sur les jeux rétro.
Ouais, non, je rectifie, François. Allez. C'est une chronique de musique de jeux vidéo.
Allons-y.
Comme la musique, ça prend du temps à connaître des musiques, ça se connaît pas instantanément. Mais on est souvent dans les jeux rétro parce que c'est les musiques que je connais le plus, que j'ai eu le temps d'écouter. T'sais.
Et la musique, c'est intemporel.
Oui, salut Chris.
Oui, bonjour, Christian, c'est Christian Lacroix.
Oui, qui est arrivé tout juste avec nous. Yeah. Oui, donc qui était intemporel, et c'est pour ça que c'est intemporel peut-être, parce que ça prend quand même un certain temps avant de réaliser à quel point ça peut être important, la musique. Et là, l'exemple d'aujourd'hui, là j'attends que la musique arrive devant Et voilà.
On la reconnaît tous.
Ouais, tout le monde la connaît, cette pièce. C'est un élément culturel du 20e siècle. Un des grands éléments symboliques de la civilisation. Où est-ce que... Oui, ben pas juste occidental, aussi oriental. Je devrais dire planétaire. C'est le thème, bien entendu, de Super Mario Bros. Brothers.
Je rappelle juste une petite anecdote. Avez-vous entendu parler de la poursuite... ben c'est ça, de Ron Jeremy. Vous en avez parlé la semaine dernière.
Je l'ai vu sur le site de Puissance Maximale.
Ouais, c'est évident.
Mais j'ai trouvé ça un peu ridicule. C'est sûrement pour faire un nouveau film.
Ouais, en
personnifiant notre ami Mario.
Donc on rappelle aux gens que Ron Jeremy, qui est un acteur porno, il poursuit Nintendo parce qu'il prétend que Nintendo se serait inspiré de lui pour faire le personnage de Mario, mais c'est probablement un gros stunt publicitaire, de la grosse broue.
Ouais, on parle de 20 pixels. Il fallait bien qu'il y ait une moustache, le petit bonhomme. Donc Koji Kondo est le créateur de cette pièce. C'est pas mal sa première vraie pièce, là. Mais c'est ça, il en a fait d'autres un peu avant, mais c'est sa première grande pièce qui a été connue. C'est peut-être sa troisième en carrière. Koji Kondo est un jeune garçon, ben il était un jeune garçon qui sortait tout juste des études lorsqu'il a été engagé par Nintendo.
C'est un bleu.
Oui, un vrai bleu. Un vrai, vrai, vrai bleu. Et ça, c'est peut-être sa troisième pièce en carrière. À l'époque, on parlait pas de musique de jeux vidéo. C'est peut-être la première vraie chanson, mélodie de jeux vidéo qui a existé. C'est celle qu'on entend présentement. Si vous pouvez m'en nommer une autre, là. Meilleure que ça.
Pong.
Pong. Mais non, une mélodie, là, marquante, swingée. Ouais. Quelque chose de percutant comme
Tetris,
ça.
Tetris, c'est-tu avant, ça?
Tetris, c'est après.
C'est après, voilà.
C'est après. Mais peut-être au Commodore. Moi, je me dis peut-être au Commodore. Ouais. Même à ça, en 84, 85, on n'était pas rendu là. Même au Commodore, qui était quand même assez évolué aussi.
Mais Pac-Man, c'est-tu avant?
Il n'y a pas une grosse mélodie. Ouais, et Pac-Man, ça dure 5-10 secondes.
Ouais. Ça ne nous a pas marqué autant.
Non. Il y a quand même la petite... Oui, si on entendait la petite mélodie de Pac-Man, ça serait percutant aussi. Mais ouais. Ça dure 5-10 secondes à côté de ça.
Pas autant développé que ça.
Oui, qui dure une minute et demie. Puis qu'il y a vraiment un swing, il y a vraiment quelque chose de spécial. Mm-hmm. Donc, Koji Kondo était tout jeune, entré chez Nintendo, plus ou moins intéressé à la musique de jeu. Il pensait pas révolutionner la musique de jeux vidéo. Lui, il s'intéressait au son... des machines, tu sais les machines à boules là, comment on appelle ça là,
les
flippers là, il s'intéressait beaucoup à ça, aux machines de data, les petits zwip qu'on entendait. Il trouvait ça intéressant, mais c'était un compositeur. Il voyait une entrée chez Nintendo comme une opportunité de peut-être se développer côté musical. Et justement, en entrant chez Nintendo, il a découvert et appris à jongler avec des contraintes. Comme j'en ai déjà parlé dans une vieille chronique, il n'y avait que 4 sons sur le Nintendo. Donc lui a dû se débrouiller avec cette contrainte-là pour faire une magnifique pièce, comme vous l'entendez présentement. Et là, actuellement, on est lorsque le temps dépasse les 100 secondes. Donc on est dans la version...
Faut se dépêcher.
Ouais, high tempo, là, ça va vite. Oui, il faut se dépêcher, là, le tableau va finir bientôt, le temps va tomber, tu vas perdre une vie. Si t'arrives pas à temps. Et voilà, et on peut voir, avec cette composition-là, on peut constater un peu la méthode de composition de Koji Kondo qui se fiait vraiment au swing du jeu pour amener son swing dans la pièce. Et là...
Et d'ailleurs, le son des... quand on fait un saut, hein... Poing! Ouais. C'était avec la musique, ça faisait une espèce d'endroit qu'on participait à la musique. Je sais pas si vous aviez cette impression-là, mais moi je jouais à ça, puis des fois j'attendais un petit peu avant de faire mon saut comme pour que ça aille mieux avec la musique. Je sais pas si j'étais tout seul à faire ça. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais terminé le jeu.
Ben voyons. Non mais c'est sûrement déjà arrivé que je l'ai fait pendant 30 secondes, une minute, là, puis j'ai pas retenu l'occasion, mais c'est sûrement déjà arrivé que j'ai voulu faire le rythme ou de quoi, là. Avec, c'est sûrement déjà arrivé, mais c'est encore là, c'est toute la science de la musique de jeux vidéo. Ça va avec ça, les sons, les effets de son, les effets sonores, en compagnie de la musique, des thèmes, de la mélodie. Ça a l'air très simple, dit comme ça, mais c'est pas du tout une composition ordinaire ou ça va vraiment au-delà, ça tient compte de l'expérience du joueur. Et lui, s'attardait vraiment à ça. Vraiment, bon, on a le saut qui est un effet sonore allié avec la petite pièce salsa, ou je pourrais pas dire quel style de musique exactement, mais quelque chose de latin, d'influence latine qu'on entend dans dans Super Mario, là, qui est devenu un classique. Et Koji Kondo a aussi fait les musiques de Zelda. Et si on regarde la carrière du monsieur, ben c'est surtout concentré sur Mario et Zelda, qui est aussi un thème mémorable. Et bon, si vous voulez trouver des exemples d'œuvres de Koji Kondo en album, moi ce que je vous conseille, c'est les 20e anniversaire de Famicom, qui est uniquement japonais, mais qui est une excellente compilation, très bien faite. Comme on a pu entendre sur la pièce, on voyait la différence de tempo marquée par le déroulement du temps au fur et à mesure du tableau. Et ça, c'est compris dans la trame sonore, les effets spéciaux de la musique qui étaient... Bon. C'est pour ça que je conseille cet album-là, ouais.
Et au Québec, où est-ce qu'on peut se procurer ça?
Amazon. Okay. Amazon, eBay, c'est par Internet, évidemment. Okay. Au Québec, discard, comme tel.
Sont
regarde, moi j'aime beaucoup acheter des disques originaux de musique de jeux vidéo, mais je dois aller à Montréal pour les avoir immédiatement là, en originaux. Dans le quartier chinois à Montréal, qui commande de l'asiatique, d'Hong Kong, du Japon aussi. C'est vraiment là que je peux me procurer des disques originaux. Sinon, à Québec, je crois pas que c'est possible. Il y a pas beaucoup de marché encore.
Peut-être
qu'avec Puissance Maximale et avec cette magnifique chronique, on va changer les choses et créer un engouement pour les disques originaux de musique de jeux vidéo.
Ça vaut la peine.
Ça existe des magasins à Montréal de musique de jeux vidéo seulement?
Ben, c'est un magasin de manga, mangaka, là, vraiment pour otaku. Je veux pas parler en langage.
Oh, oui.
Bon, mais c'est vraiment pour les maniaques de manga, mais il y a une section musique de jeux vidéo, musique asiatique. Une grande section consacrée aux musiques de jeux vidéo.
C'est quoi le magasin, le nom du magasin?
Non, c'était en chinois ou quoi, quelque chose comme ça. Je sais pas le nom du magasin par cœur. Okay. Faudrait que j'aille la petite carte, là, achetez-en 10 et obtenez-en un gratuit pour te dire. et donc, je te renseignerai peut-être après l'émission là-dessus pour qu'on puisse en reparler peut-être du magasin.
Oui.
Et avant de terminer la chronique, je voudrais un peu parler de la pièce que je vais vous faire entendre de Koji Kondo. C'est une pièce du Nintendo 64, une pièce de Mario 64, qui a aussi été un jeu révolutionnaire pour son côté 3D. C'était comme une des premières, un jeu complètement 3D, avec l'exploration. Ça a influencé plein d'autres jeux de plateforme, du même Akabi. Mais la pièce que vous allez entendre, moi, je pourrais jouer à Mario 64 uniquement pour entendre cette pièce-là. qui est la pièce du premier tableau. Et je suis sûr que je suis pas le seul. C'est vraiment une magnifique pièce, la pièce du premier tableau de Mario 64, quand on entre là, vraiment dans le vif du jeu.
C'est vrai, hein, c'est vrai. Je me rappelle, là, ça commence à m'en venir à l'esprit.
Alors, on écoute ça, et c'est ce qui termine la chronique sur Koji Kondo.
Koji Kondo, merci Alexandre Bélanger.
Mais de rien, à bientôt.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Et on s'en va en entrevue pour parler de Monster vs Alien. Voici le trailer.
Monsters vs. Aliens, the video game. When aliens attack, monsters fight back. Only your team of monsters can smash.
Sweet dreams, pal.
Skate.
All right.
Yay!
And ooze the way to victory.
This is fun!
Activision and DreamWorks Animation present... Monsters vs. Aliens, the video game.
Don't worry, we have it all under control.
I got him, you guys. I got.
Game in stores and movie in theaters, spring 2009.
Et voilà, c'était la bande sonore du trailer de Monster vs. Alien. Et aujourd'hui, pour nous en parler, nous avons Rémi Lortie de Binox Québec. Bonjour, Rémi.
Oui, bonjour.
Donc,
qu'est-ce qui est arrivé à Thomas?
Pardon?
Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas?
Oui, ben, Thomas devait venir, Thomas Wilson, directeur créatif.
Ben oui, ben, Thomas, en fait, c'est une semaine assez chargée. On a le jeu qui sort demain, on a le film qui sort cette semaine, et en plus, on a le GDC à San Francisco. Puis à ce moment-là, disons
qu'il y a tout à sortir. Ah, vous participez au GDC?
Oui, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, pas moi, malheureusement. Okay. Mais moi, j'étais disponible, donc ça me faisait plaisir d'être ici avec vous ce soir.
Donc, dans le jeu vidéo Monster vs Alien, on lutte contre des extraterrestres robotiques avec une équipe de super monstres. Et le jeu est inspiré du film du même nom. Et on a quelqu'un de l'équipe de création qui vient nous parler. Donc, à voir le synopsis du film, là, on croirait qu'il a été fabriqué pour être conçu en tant que jeu vidéo. Hein. Il y a trois ou quatre personnages, quatre ou cinq personnages, ils ont tous des pouvoirs spéciaux. Ça se peut-tu que ça n'a pas été une grosse corvée de changer, d'adapter le film pour le jeu vidéo?
Ah, effectivement, je pense que ça a été très rapide, en fait, de trouver c'est quoi qui était à faire d'intéressant sur ce jeu-là. Puis super vite, ça a été déterminé qu'en fait, on allait exploiter les personnages les plus intéressants en termes de jeu. Donc ici, on parle de Missing Link, le chaînon manquant, Bob, qui est une grosse masse de gélatine indestructible. On a la Janomeka ou Genormica en français, qui, elle, est la femme de 50 pieds, en fait. Donc, elle est super grande, elle a des super pouvoirs. Puis, en plus, elle peut faire du skate dans les chars.
C'est une paradis d'un film des années 50, là, la femme de 50 pieds, un truc comme ça.
Ben, c'est ça, c'est
en fait, aussi.
Ce film-là rassemble à peu près tous les bons vieux monstres là, qu'on avait dans les films des années 50-60. Puis, on les met tous ensemble, ils se battent contre des extraterrestres pour défendre la Terre d'une invasion.
C'est ça, c'est ça l'histoire en particulier, mais c'est ça, ça finalement, ça a pas dû être difficile d'adapter le jeu finalement, parce que c'est ça, c'était tout des personnages déjà quasiment faits, on dirait, pour un jeu vidéo.
Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça se pourrait, ok, que les deux produits, le film et le jeu, aient été développés en parallèle, ou un peu un en fonction de l'autre?
Ouais, c'est tout un processus qui se passe quand même en parallèle, parce que très vite, quand ils commencent à faire le film, quand ils travaillent sur l'histoire, les personnages sont développés. Nous, on embarque un petit peu plus tard dans le développement du film, donc nous
autres, un peu plus tard.
Ouais, un peu plus tard quand même, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de travail, un petit peu d'avance. Mais faut tout le temps conjuguer notre développement avec ce qui se passe au niveau du développement du film, et c'est pas rare là, de voir des petits changements arriver, comme un petit changement de scénario, un ajout d'un personnage, ou peut-être un personnage qui a plus autant d'importance qu'il pouvait avoir. Mais dans notre cas, c'était vraiment assez clair qu'on pouvait faire une trame narrative qui s'inspirait du film, mais qui n'était pas nécessairement exactement comme le film. Puis ça, en soi, ça donne beaucoup de liberté. Puis c'est là que ça devient vraiment plaisant en termes de création de jeux vidéo. Là.
Puis tu parlais de liberté, mais il y a quand même la contrainte, j'imagine, de la date de tombée qui doit correspondre un peu avec celle du film. Ça
va être
une pression assez importante. Hein.
C'est un impondérable. Puis surtout dans le jeu vidéo, dans le cas de Binox, en fait, c'est la première fois, en fait, ça arrive. Je pense pas avoir vu ça très souvent, mais qu'un développeur, en plus, développe les 5 consoles. En fait, on a fait toutes les consoles de jeu, sauf la version DS, okay. Ce qui est pas n'importe quoi dans l'industrie comme telle, parce que là, en plus, fallait gérer toute la production de toutes les versions de jeu sur toutes les consoles, testées, fonctionnelles.
Ben oui, mais comment pour ça, la même date. Pourquoi vous avez été choisi, vous, en particulier, pour faire ce travail-là, tu l'as dit, c'est pas quelque chose de courant?
Ben, en fait, chez Binox, on a toute la capacité technologique et aussi au niveau de l'équipe pour arriver à faire cette tâche-là, parce que en fait, Binox historiquement faisait beaucoup de jeux qui étaient des ports, donc qui faisaient des conversions de jeux vidéo. Puis à ce moment-là, avec le temps, a développé son équipe de développement pour faire des jeux originaux. Donc, je pense que c'était l'équipe qui était tout indiquée pour faire cette tâche-là, qui en soi-même est quand même quelque chose là qui est pas courant là, dans l'industrie là.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la chose qui démarque le studio de Québec là, par rapport aux autres studios d'Activision à travers le monde, c'est-à-dire sa capacité à adapter des jeux à d'autres consoles?
Oui, mais surtout vraiment de pouvoir maintenant, on va dire, outputter un jeu là, sur 5 consoles en même temps. Donc c'est un gros avantage pour le studio à Québec.
Hey, mais 5 consoles, j'arrive pas à me faire le portrait. C'est quoi les 5 consoles?
Non, en fait, c'est des plateformes. Il y a le PC, j'imagine, là-dedans.
Ouais, le PC, on parle Xbox 360, PlayStation 3, la Nintendo Wii et aussi la PS2. Ce jeu-là est aussi développé pour la PS2.
Mais oui, il y a encore beaucoup de monde quand même qui ont des PS2.
Oui, puis c'est encore un bon vendeur.
Oui,
c'est vrai. C'est dans le top des ventes. Mais sinon, c'est la deuxième fois que vous travaillez avec DreamWorks. Là. La première fois, c'était avec B-Movie Game.
Oui.
Comment ça se déroule, la coopération là, entre DreamWorks et Binox?
Ben, ça se passe très bien. C'est sûr qu'eux étaient très contents là, du travail qui avait été fait avec B-Movie. Fait qu'à ce moment-là, de savoir qu'on était l'équipe qui allait s'occuper de leur prochain film, j'imagine qu'ils étaient quand même assez contents. Moi, j'ai pu travailler avec eux autres directement dans l'élaboration de l'histoire, dans l'approbation des animations, aussi de tout ce qui était le look artistique, des fois des ennemis qu'on proposait, des nouveaux personnages qu'on voulait implanter. Puis ensuite, ils se sont toujours montrés très ouverts, très accueillants avec nos idées. Puis ils sentaient aussi qu'on voulait vraiment respecter l'univers qu'ils étaient en train de créer. Puis ça, c'est bien important. Mm-hmm.
Est-ce que je me demandais aussi juste une petite question au niveau technique, est-ce que ils peuvent vous envoyer, vous pouvez vous servir par exemple de leur fichier, je sais pas, où c'est complètement, où on repart de zéro, si on s'inspire, ou on peut quand même prendre certaines parties puis baser là-dessus sur les animations?
C'est quand même assez rare parce qu'ils utilisent des systèmes complètement différents en termes de pas rentrer nécessairement dans le code trop technique, mais disons que on va juste parler en termes de résolution. La résolution que les autres utilisent pour faire le film est
beaucoup plus détaillée.
Détaillée et même à la limite pas utilisable du tout là sur une console. Fait,
le film d'ailleurs a été développé en espèce de système 3D là, particulier. Là.
Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui est pas mal un gros hype à Hollywood ces temps-ci. Là, DreamWorks s'est investi beaucoup là-dedans. D'ailleurs, ils ont fait un spot de publicité là, pour Monster vs. Aliens pendant le Super Bowl, justement avec leur 3D. Mais c'est vraiment différent.
C'est quoi exactement? C'est-tu comme des vieilles lunettes que tu te mets là dans les yeux puis tu vois le truc en 3D? C'est quoi?
C'est des lunettes. C'est le même principe, mais on est vraiment loin là, de l'approche rouge et bleu, justement, comme il y avait au Super Bowl. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. C'est une différence de polarisation, je pense, entre les deux verres qui fait en sorte qu'il fait un petit délai dans ce que le cerveau interprète comme une image. Puis eux autres jouent là-dessus pour donner l'illusion de 3D. Wow. Là, ça, c'est la théorie derrière, mais pour le reste, tout le film a été conçu en tenant compte d'avoir des belles scènes qui exploitaient super bien là, ce procédé-là. Mmh. Et apparemment, c'est pas nécessairement très coûteux là, en plus.
Puis est-ce qu'on pense que ça pourrait devenir dans les jeux éventuellement?
Ah, ça, c'est la grande question. Ouais, ça pourrait, mais on a fait des tests qui sont pas nécessairement avérés super concluants pour l'instant, mais peut-être dans un avenir plus ou moins rapproché, on va pouvoir exploiter ça. C'est très lié aussi au niveau hardware, c'est les cartes graphiques qui doivent probablement donner plus de jus là, pour ça.
Une chose est sûre, Rémi Lartier, en tout cas, c'est que si un écran de cinéma peut le faire, probablement que le PC peut le faire ou les consoles vont pouvoir le faire un jour. Ça, c'est garanti.
Eh oui, on peut espérer.
On va souhaiter ça. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers lors de la création du jeu Monster vs. Alien?
Oui, ben, je dirais que chaque développement de jeu est tout le temps un défi. Déjà, de le faire sur 5 consoles était là, un des défis principaux. Travailler aussi avec différents personnages jouables, c'est quelque chose qui apporte tout son lot de défis en même temps. Donc, c'est d'arriver à trouver des actions intéressantes par personnage. Puis aussi, pour le joueur, ça reste une expérience, c'est quand même assez facile. Donc, on parle juste de contrôle. Ben là, il faut arriver à jouer avec le jeu. On change de personnage, on change de contrôle, mais il faut pas que le joueur soit perdu nécessairement pendant trop longtemps. Donc, il y a tout un travail d'unification, là, qui est, de standardisation qui est fait. Puis en plus, on parle d'un jeu pour enfants, donc tout ce qui, on a des fois tendance à vouloir mettre ça plus difficile, mettre ça plus challenging, puis finalement, on a, faut qu'oublier non plus. C'est un jeu pour enfants.
Puis est-ce qu'il y a un mode multijoueur où on peut...
Il y a un mode de coopération qui est dans le jeu. En fait, on incarne trois personnages en jouant, mais on a aussi la possibilité d'incarner le Dr. Cafard, donc Dr. Cockroach, comme un personnage coopératif. Dans le fond, ce qu'on fait, on prend une deuxième manette, soit le contrôleur de la Wii ou une deuxième manette de console. Puis à ce moment-là, on peut comme viser les ennemis. Puis là, on entend le personnage intervenir aussi, on le voit dans quelques animations. Donc le deuxième joueur peut coopérer au succès de la game avec le premier joueur pour justement... Là, okay.
Donc c'est un joueur ou deux.
Ouais, exactement.
J'ai vu dans le soleil qu'il y avait une espèce de truc que j'ai découpé. Là, c'est pour participer à un concours pour gagner un des Monsters versus Alien. Rémi, t'es-tu au courant?
Oui, j'ai vu ça passer. Par contre, je n'ai pas tous les détails. Je dois être en
arrière. Donc, c'est tout simplement que les gens peuvent, s'ils ont le soleil ou peut-être d'autres quotidiens font la même chose. Il suffit de surveiller les bas de page et puis les gens peuvent remplir là, un petit formulaire et ils peuvent courir la chance de gagner un jeu Monster vs Aliens. Donc, on encourage les jeunes gens à participer.
Eh bien, oui. Et à jouer, ensuite.
Mais t'aurais pas apporté des jeux pour nous autres qu'on fasse tirer en onde, là?
J'avais une question quand même. Tu parlais d'un petit point sur la standardisation des personnages quand il y a plusieurs personnages dans un jeu.
Ouais, c'est plus pour les contrôles comme tel.
Oui, ben c'est ça. Est-ce que vous êtes fié sur des anciens jeux? Parce que j'ai vu ça souvent, ce que tu dis, dans plusieurs consoles, dans plusieurs générations de jeux où il y avait plusieurs personnages. Mais avec des contrôles différents, mais quand même dans la même famille, étant donné que c'est le même jeu. Est-ce que vous utilisez des vieux modèles?
Non, ben c'est sûr qu'on avait des éléments pour s'inspirer, tu sais, qu'on va prendre des titres, on devrait faire ça comme tel type de jeu ou tel autre type de jeu. Mais en fait, on s'est vraiment plus basé sur qu'est-ce que nos personnages faisaient de particulier, puis ensuite, c'était quoi qui était naturel de faire, en fait, le plus naturel à faire avec la manette. Ouais, ben si tu viens de manière facile, tu sais, instinctivement.
Ouais,
exactement. Ouais. Parce qu'on a, vraiment des personnages différents. On a le Chêneau manquant qui lui fait comme cogner. En fait, c'est plus un brawler, comme on pourrait dire, un peu à la God of War et tout. Puis ensuite, on a Bob qui, là, ça, forcément, je pense pas qu'on ait vu ça souvent en jeu vidéo. C'est juste un genre de blob gélatineux. Il peut gober des objets, les recracher, coller après les murs, s'infiltrer à travers les grilles. Puis, puis on a ensuite John McCall, la femme de 50 pieds, qui elle fait du patin à roulettes dans des automobiles. Fait que c'est vraiment complètement varié en termes de personnages. Je pense que les enfants vont voir qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de variété dans ce jeu-là. Là. Mais pour les contrôles, c'était juste comme de trouver ce qui était naturel.
Je te remercie beaucoup, Rémi Lorty. C'est la fin de l'entrevue.
Ça fait plaisir.
Tu viens de parler de Monster vs Aliens et on t'en remercie beaucoup. On salue le studio de Binox de Québec. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance pour la sortie du jeu le 24 mars. Si je ne m'abuse.
Yes.
Et voilà.
Merci beaucoup.
Donc, on va l'écouter maintenant une pièce sans plus attendre de Weird Al Yankovic. Ça va être de Saga Begins. Vous êtes à puissance maximale.
Qu'importe.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas and met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later. Now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Fast his pod can go, and we were broke, it's true.
Like to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died, some ships blew up and some pilots fried, a lot of folks were croaking, the battle droids were broken. And the Jedi I admire most met up with Darth Maul and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Et non, on ne vous oubliera pas cette semaine, la puissance maximale, on aime ça vous faire plaisir. Et puis, aujourd'hui, on vous fait tirer un fanzine de puissance maximale.
C'est un cadeau extraordinaire.
D'une valeur de 1,5$, la foi du bon Dieu.
Mais c'est pas la valeur monétaire qui indique sa valeur
non, ça
réelle.
Ouais. Sinon, les gens, ils veulent l'acheter, c'est pas compliqué. Il y en a dans Albéry Donjon, il y en a au Valet de Cœur à Montréal, il y en a à l'Imaginaire, il y en a un peu partout. Même les clubs de jeux de rôle de Québec, ils en ont. C'est extraordinaire. Mais les gens qui veulent l'avoir, 529-90-26, je vous le renvoie par la poste, ou bien ils peuvent venir la chercher au 600 Côte d'Abraham à Sequoia.
Donc au 418-529-90-26.
Oh non, encore les clingons! Monsieur Scott, puissance maximum.
Sinon, on s'en va à une chronique geek!
Ben oui, puis j'ai réussi à retenir Rémi avec nous encore quelques minutes. Merci beaucoup, Rémi, de rester avec nous. Alexandre aussi, François.
Pas de problème.
Je voulais juste lancer peut-être un toute discussion autour d'un phénomène dans le monde geek qui est incontournable, c'est le phénomène évidemment de Watchmen. Hein? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Watchmen, c'est un univers absolument délirant. On parle d'une franchise qui a été élaborée quand même. Ça fait je pense son 25e anniversaire récemment, et c'est pour ça je pense qu'ils ont réussi à lancer le film. C'était la bande dessinée qui était supposée être absolument infilmable, mais Zack Snyder a réussi à réaliser le coup. Et donc Alan Moore, le créateur, l'auteur premier là, qui avait fait ça avec monsieur Gibbons, qui était l'artiste. Alan Moore, c'est un personnage, je sais pas si vous connaissez un peu le personnage, il est assez spécial. Allez voir des images juste ou des vidéos sur YouTube, des entrevues, là, le gars, c'est un vrai artiste.
C'est une célébrité, lui.
C'est une célébrité, ouais, tout à fait. Ouais. Il vit un peu en ermite en Angleterre. Il a une barbe, en tout cas, il a sa canne. Il est spécial, ouais. Le monsieur. Et il a un ego très, très spécial. Et pour lui, il est très choqué de que ce soit, que ses œuvres soient transposées en film ou en quoi que ce soit. Pour lui, il dit non, c'est l'œuvre, c'est une bande dessinée. Donc
ça mais pourtant, ça s'est fait. Tout récemment, on a pu voir Watchmen en film.
Oui, mais qui est quand même très fidèle. C'est une très belle adaptation, moi, je pense. Je sais pas, on fait un petit tour de table. Rémi, toi, comment t'as trouvé ça?
Ah, ben, justement, en termes d'adaptation, je pense que c'est vraiment très... c'est justement en fait avec passion, parce qu'on peut voir dans certains... Moi, j'avais lu le livre juste avant d'aller voir le film, puis même avant d'aller voir le film, j'étais en stationnement en train de finir les derniers chapitres. Je m'étais gardé le punch de la fin, je savais pas c'était quoi. Puis, je pouvais constater de voir les plans de cinéma étaient les mêmes...
Que les
cases de bande dessinée. Puis ça, vraiment souvent, dans le même ordre, puis ils n'ont pas changé l'ordre au niveau du scénario ou l'ordre au niveau de l'histoire. Les événements arrivent tels qu'ils sont décrits dans le livre.
Tout à fait. Il y a quelques petits détails qui ont été changés, mais c'est mineur. Entre autres, la fin, justement. Mais je comprends pourquoi ils l'ont changé, là.
On n'en parlera pas, non,
pour les gens qui n'ont pas vu le film.
Alexandre, tu l'as vu, toi aussi, je pense. J'ai lu la bande dessinée. Ouais. Okay. Uniquement, mais j'ai pas encore vu le film, mais là ça me donne vraiment le goût de la voir rapidement.
Il faut voir ça. Et puis entre autres, le souci du détail, comme tu dis Rémi, c'est quand il faisait un morceau de journal, apparemment tous les textes sont écrits, donc on va pouvoir arrêter, faire une pause sur le DVD, puis ceux qui peuvent zoomer, vous allez pouvoir lire les articles. Tout a été fait comme ça. Les images sont très chargées, hein. Vous voyez toujours plein de petits items qui nous rappellent, parce que c'est un des thèmes de Watchmen, c'est la nostalgie, hein. Il y a le parfum de nostalgia là,
avec les héros, oui.
Oui, puis on parle toujours en question. Oui. De Golden, de l'époque dorée des super-héros là, et l'intro, je sais pas si vous vous rappelez de toi, François, ouais. Est-ce que tu l'as vu?
Moi, j'ai pas vu malheureusement.
Juste l'intro,
c'est magnifique là.
Magnifique. Mm-hmm. On voit vraiment, il y a des espèces de hyper ralenti là avec les anciens super-héros là de la vieille garde là, des années 50, parce que faut comprendre, c'est une réalité parallèle, hein, ce monde là.
On parle de Superman, quoi, comme vieux super-héros.
Non, c'est vraiment tout est fictif en fait, c'est pas des personnages, en fait, c'est des personnages, on pourrait dire inspiré des personnages de DC Comics, mais qui étaient vraiment juste complètement inventés pour l'œuvre comme telle.
C'est ça, à l'origine, ils étaient supposés reprendre une équipe là, qui existait déjà, mais finalement, les droits n'avaient pas été... Alors là, ils ont inventé rapidement des... Mais c'est comme pas important. Honnêtement, là, les pouvoirs des super-héros là-dedans, on s'en fout un peu. C'est pas ça le
thème. Certains en ont même pas. On sait même pas c'est quoi leur pouvoir.
Exactement. Il y a des archétypes comme Night Owl. C'est évident que c'est comme un Batman. Sauf que le gag, c'est que c'est un hibou, tu sais. Bon. Mais ils sont quand même très bien réussi. Il y en a un qui est absolument inclassable, c'est Rorschach, qui, d'après moi, est le plus intéressant, parce que c'est un conte moral avant tout.
Hein. C'est pas le nom d'une soupe de l'Europe de l'Est, c'est Rorschach.
Rorschach, ouais, c'est peut-être, je sais pas. Mais juste pour rapidement, là, parce qu'il reste très peu de temps, là, je veux juste, je pense, souligner, selon moi, l'intérêt là, de l'œuvre, c'est que c'est un conte moral, parce que vous avez là-dedans plusieurs approches, et la question fondamentale, je suis en train de lire le livre, le compagnon du film, pour ça que je fais. Mais une des questions fondamentale que Zack Snyder a dit, je pense que c'est vrai aussi, c'est que c'est qui fait le monde, dans le sens que eux, ils ont le pouvoir, ces super-héros-là, et il y en a un qui finit par dire c'est quel prix on est prêt à payer pour, par exemple, avoir la paix dans le monde, parce que dans cet univers parallèle-là, c'est encore la guerre froide qui culmine, et là on est sur vraiment le bord, il est minimum moins 5 là, avant la carrément
une
guerre
nucléaire. Et c'est Nixon le président, donc ça va mal.
Oui, puis en plus, il est réélu pour un cinquième mandat. Hein, c'est un peu... oui, c'est un peu d'ailleurs une farce. Et ça. Mais donc, Et il y a un gros complot pour finalement arriver à faire un cataclysme, à créer un cataclysme volontairement pour après ça dire ben les gens vont se serrer les coudes après. Mais est-ce qu'on est prêt à sacrifier des millions de personnes pour arriver à cette fin-là, pour la paix dans le monde? Et en tout cas, bon, là j'en dis beaucoup sur le film, là, mais de toute façon c'est plus un secret, là, c'est sorti. Mais et Rorschach, c'est le seul personnage qui dit non. Lui, il dit non, ça ne vaut pas la peine. Lui, jusqu'à la fin, il s'enligne pour je vais avertir les gens, je vais faire sortir la. C'est un scandale, on ne peut pas laisser ça. Ouais. Et finalement, il se fait évidemment. Il en paye le prix et il sait qu'il va payer le prix, qu'il va détruire. Mais il continue pareil parce que c'est un être fondamentalement moral, mais pourtant, tu le regardes, c'est le plus.
C'est le plus violent,
Violent, il y a eu une enfance épouvantable, il est complètement.
Un peu comme Wolverine, qui était justement un peu plus dark.
Oui, sociopathe un peu, là, presque carrément. Ben, enfin, mais paradoxalement, c'est l'être le plus moral qu'il y a pas dans
c'est drôle, il était 55, mais on pourrait en parler vraiment longtemps. Là, ouais. Tu fais juste me parler, là, puis j'ai réfléchi à toutes les causes, toutes les filles d'acteurs que j'ai contemplées. Ouais. Ça me rappelle des bons souvenirs, tu sais, ce que tu dis là, puis toute l'atmosphère de cette bande dessinée-là, à tout le moins.
Ah oui.
Et le film, bon, s'il est bon, tant mieux.
Quand même. Allez voir ça. Et en tout cas, ben, pour conclure, là, c'est une œuvre à découvrir. Si vous aimez, même si vous, je pense qu'Alexandre n'aime pas la bande dessinée
américaine,
les comics américains.
C'est
mais ça, c'est une remise en cause, justement, de tout ça, des thèmes. Donc, en tout cas, découvrez la bande dessinée et le film, mais surtout la bande dessinée.
Hein? Tu peux te rappeler le nom?
Watchmen, Les Gardiens, voilà. En français.
Ouais, c'est ça. Je pense que j'aimerais ça, ce film-là. En plus, ça a rapport avec la guerre froide. C'est Nixon, le président. Puis c'est drôle parce que dans Futurama aussi, le président méchant, c'était Nixon.
Voilà, ça ressemble. Il y a des liens à faire.
Un président mal aimé. Ben, merci, Alexandre. Merci, Christian. Ben, enfin, on remercie tout le monde. Ouais. Faisons un tour de remerciements. Merci, Christian Lacroix. Merci Rémi Lortie. Merci Alexandre Bélanger.
Merci François.
Et merci.
Merci François.
Et ben là, on va faire quand même l'agenda de la semaine parce qu'il y a des choses à faire, puis il faut triper, il faut s'amuser, il faut jouer. C'est important. À tous les mardis, il y a des parties de Go, le jeu de plateau japonais au Café Babylone. Sinon, il y a aussi le même jour, le mardi, il y a des parties, des tournois de hockey sur la Wii à la Ninkasi, le bar sur la rue Saint-Jean. Sinon, le 17 avril prochain, il va y avoir une espèce de gros rave organisé par la gang d'Harajuku Québec. Donc, ça va être un temps de danser jusqu'aux petites heures du matin. Et finalement, ben, rejoignez-nous le lundi, à tous les lundis, à partir de 18h, on va jouer à des jeux de plateau à l'Abraham Martin. Combien ça coûte? C'est gratuit! Fait que vous n'avez pas de raison de pas venir. Venez-vous-en! C'est une invitation de puissance maximale. On se le dit à la semaine prochaine. Et bonne semaine.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.